Voici l'accent des autres. Bienvenue, comme chaque semaine, dans votre rendez-vous avec l'actualité des médias francophones publics, la radio-télévision suisse, Radio-Canada, France Inter, la RTBF et RFI. Et on commence en Suisse, où, pour la première fois, un parlement cantonal est à majorité féminine, Pierre Anchoffat.
Le corps électoral neuchâtelois a poussé les femmes comme jamais, 58 sièges sur 100, raison de ce succès, le volontarisme des partis, y compris à droite.
Nous allons aussi évoquer le sommet sur le climat initié par le président américain Joe Biden parce que le Canada se dote d'une nouvelle cible pour réduire ses émissions de GES, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, Naïla Bendali.
Le premier ministre Justin Trudeau a profité du sommet pour annoncer que le Canada réduira ses émissions de GES de 40 à 45 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Mais les environnementalistes sont déçus.
Sur le continent africain, Nicolas Sur, ce coup de tonnerre mardi dernier au Tchad de l'annonce de la mort du président Idriss Déby.
Oui, selon l'armée tchadienne, le chef d'État a été mortellement blessé en se battant contre des rebelles dans le nord du pays. C'est une page d'histoire de 31 ans qui se tourne.
En Belgique, cette fois, le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs reste élevé, mais malgré cela, plusieurs secteurs annoncent leur intention de reprendre leurs activités. Jacques Kremers, malgré les interdictions.
Oui, après l'horeca, café et restaurant, c'est le secteur culturel qui se dit prêt à rouvrir en toute sécurité, mais aussi en toute illégalité. 90 lieux culturels disent qu'ils vont reprendre leur programmation.
Enfin, en France, des entreprises font appel aux nouvelles technologies pour envisager notre future vie quotidienne face aux crises sanitaires, au pluriel, Eric Delvaux.
Oui, le projet s'appelle Be Lifeline, des innovations qui vont peut-être nous changer la vie, au travail, comme dans certains lieux publics.
Voilà pour le sommaire de cette semaine. C'est donc une première en Suisse. Certains et certaines parlent même de moments historiques. Les femmes ont donc décroché la majorité au Parlement du canton de Neuchâtel. Dimanche dernier, Pierre-Han, le corps électoral a permis de faire asseoir 58 femmes sur les 100 sièges disponibles.
Un succès qui n'est pas venu tout seul. Dans ce canton, la gauche a thématisé la question de l'égalité, plaidant en vain pour la parité aux législatives, puis en exigeant des listes paritaires pour toute élection. Un activisme qui a aiguillonné la droite. Le Parti libéral radical, premier parti du canton, n'a certes présenté que 29 femmes sur 100 candidats, mais elles occupaient les 29 premières places de la liste. Un coup de pouce qui a payé. La députation radicale compte désormais 40% de femmes contre 16 auparavant. La bernoise Claudine Esseva se bat depuis des années pour la promotion des femmes dans son parti. Elle se réjouit que cette politique volontariste ait atteint ses objectifs.
Si tous les partis ont cette sensibilité, on arrive à avoir un record comme on le voit maintenant dans le canton de Neuchâtel. Mais on a aussi vu qu'il faut ce coup de pouce, convaincre les femmes de se mettre candidates, il faut le mettre en avant. Et ça, tous les partis cette année ont fait avec un grand succès.
Et en effet, il y a eu comme une émulation lors de ces élections neuchâteloises. Les femmes progressent dans tous les partis avec un record à 75% chez les écologistes.
Et au-delà de ces coups de pouce des partis, comment expliquer, Pierre-Han, cette vague spectaculaire?
Cette tendance s'observe dans d'autres élections cantonales ou locales. Ces derniers mois, il y a clairement un terreau favorable depuis les mobilisations autour de la grève des femmes il y a 2 ans. La célébration du 50e anniversaire du suffrage féminin en février a aussi favorisé le thème de l'égalité. Vice-présidente des Jeunesses Socialistes Suisses, Pauline Schneider, espère que ce sont bien les mentalités qui bougent.
J'espère qu'il y aura de plus en plus de discussions sur l'égalité, puis surtout montrer que tous les mouvements qui ont eu lieu, comme la grève des femmes, qui sont des vrais mouvements sociaux, ils ont aussi une répercussion dans les urnes et puis au niveau de la représentation de la société dans les lieux politiques.
De là à ce que la représentation des femmes ne soit plus un thème parce que devenu normal, il y a sans doute encore quelques élections à franchir. En moyenne suisse, on est à moins d'un tiers dans les parlements cantonaux.
Au Canada, à présent, nous allons évoquer le sommet pour le climat de cette fin de semaine. Le président américain Joe Biden a appelé ses homologues de l'étranger à se doter des moyens nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Et Naïla, le Canada a profité de l'occasion pour annoncer une cible plus ambitieuse de réduction des gaz à effet de serre.
Oui, à ce sommet, sur invitation de Washington, des plus gros pollueurs au monde. Et auparavant, la cible canadienne, c'était une réduction de 36 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005. Et lors du sommet, Justin Trudeau a dévoilé sa nouvelle cible. Il s'agit plutôt d'une fourchette cible de réduction de 40 à 45 % d'ici 2030. Les Américains qui ont exprimé qu'une cible en deçà d'une réduction de 40 % serait mal perçue. Alors, le gouvernement fédéral aura certainement besoin de l'aide des provinces pour atteindre sa cible, les provinces qui sont responsables de plusieurs secteurs qui touchent la lutte contre les changements climatiques, comme le transport, l'énergie, l'exploitation des ressources naturelles, l'agriculture ou encore la production d'électricité. La cible canadienne, elle est moins ambitieuse que celle de ses homologues américains, de ses homologues européens aussi. Ça fait l'objet de critiques. Mais la différence, dit-on, c'est que le plan canadien contient une mesure contraignante pour changer les habitudes quotidiennes des automobilistes, la tarification du carbone. Écoutons le premier ministre Justin Trudeau.
Pendant qu'on se fie à la science pour sauver des vies et développer des vaccins, on doit aussi écouter la science climatique qui nous dit qu'on fait face à une menace existentielle. Seules les politiques climatiques sérieuses donnent des résultats sérieux.
Voilà, à l'instant, donc, le premier ministre canadien. Alors, malgré cette nouvelle cible canadienne, Naïla, des environnementalistes jugent que le pays est en retard dans sa lutte face au changement climatique.
Le gouvernement parle d'une cible réaliste, mais pour des environnementalistes, c'est plutôt un manque d'ambition. Parce que quand on compare, c'est en effet une cible moins élevée que celle des États-Unis, qui, eux, comptent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. L'Union européenne parle même d'une diminution de ses émissions de 55 % par rapport au niveau de 1990. Alors, la nouvelle cible canadienne fait dire au groupe environnementaliste que les ambitions du pays ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Selon des groupes comme Greenpeace ou encore la Fondation David Suzuki, on pourrait se doter d'une cible de réduction de 60 % d'ici 2030. On croit que c'est possible avec beaucoup de volonté politique. Et pour les environnementalistes, le problème canadien, il est surtout lié à l'expansion du secteur pétrolier qui est très important au Canada, là, notamment avec les sables bitumineux en Alberta. Cette cible de réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi réclamé par le Parti vert à Ottawa, un parti d'opposition. Le nouveau Parti démocratique fixerait cette cible plutôt à 50 % Pour les conservateurs, eux, on considère qu'une cible de 30 % est toujours appropriée.
Sur le continent africain, cette fois, on retient cette semaine donc la disparition du président du Tchad, Idriss Déby. La nouvelle a été annoncée mardi matin par le porte-parole de l'armée tchadienne. Un conseil militaire doté des pleins pouvoirs dirigé par son fils prend la relève. Nicolas, le président tchadien aura régné 31 ans.
Oui, c'est par un coup d'État qu'Idriss Déby arrive au pouvoir en 1990. Il renverse alors le président Hissène Habré, dont il avait été le commandant en chef de l'armée. Depuis lors, Idriss Déby a multiplié les mandats, réélu par des suffrages toujours critiqués par leur manque de transparence. Il venait d'ailleurs d'être déclaré vainqueur de sa sixième présidentielle. Idriss Déby a souvent été pointé du doigt par les ONG pour ses violations régulières des droits de l'homme. À chaque secousse du régime, à chaque trahison, s'ensuivent arrestations et purges. Idriss Déby aura pourtant toujours joui du soutien de la France, car son histoire est aussi celle d'un soldat passé par l'école de guerre française, où il aura développé des amitiés utiles. Plusieurs fois malmené par des rébellions, en 2006, en 2008, N'Djamena est assiégé, enfin en 2019, le régime d'Idriss Déby a toujours pu compter sur une intervention militaire française. Il faut dire qu'Idriss Déby aura été aussi un allié indispensable en autorisant une base aérienne à N'Djamena qui permet au Mirage français d'être à une heure de vol du Sahel et de l'Afrique centrale, en accueillant le quartier général de l'opération française Barkhane et en envoyant ses troupes affronter les groupes djihadistes du Sahel, notamment au Mali.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Sur le front du Covid, à présent, direction la Belgique tout d'abord. Plusieurs secteurs n'en peuvent plus des mesures de restriction et d'interdiction. Jacques, une petite centaine de lieux culturels a donc décidé de rouvrir sans attendre le feu vert du gouvernement.
Oui, après quelques coups d'essai isolés, c'est désormais une fronde organisée sous une bannière commune, une organisation baptisée Still Standing for Culture, toujours debout pour la culture, concrètement des théâtres, des cinémas, des salles de concert, frontières s'apprêtent à rouvrir leurs portes dès le 30 avril dans le respect des protocoles sanitaires décidés par les pouvoirs publics et qui ont été appliqués entre juillet et octobre dernier. Les responsables de ces 90 lieux culturels ont décidé qu'ils ne pouvaient plus attendre. Ils sont prêts à braver l'interdit, comme certains cafés et restaurants l'ont aussi annoncé à partir du 1er mai, même si une partie d'entre eux a d'ores et déjà déchanté suite aux menaces de sanctions financières.
Oui, la culture était ce vendredi au menu d'une réunion des gouvernements belges et comme le secteur s'y attendait, Jacques, les avancées sont jugées trop timides, en deçà des espoirs.
Oui, pour le mois de mai, les gouvernements autorisent seulement les activités en extérieur réunissant jusqu'à 50 personnes, une mesure et une jauge que les opérateurs jugent insuffisante et non rentable. Et c'est seulement à partir du mois de juin que des événements, notamment culturels, pourront être organisés à l'intérieur jusqu'à 200 personnes, a fortiori à l'extérieur. La patience et les mesures de restriction restent donc de rigueur. Le taux d'occupation des lits en soins intensifs est encore trop élevé, même si 70% des plus de 65 ans sont d'ores et déjà vaccinés.
Alors on parlait il y a un instant de l'horeca en Belgique, un mot de la Suisse aussi avec vous Pierre-Han. Les restaurants ne rouvriront pas avant la fin mai, à l'exception toutefois des terrasses qui sont ouvertes depuis lundi.
Le gouvernement a présenté un plan de sortie de crise en trois phases. Il veut en tout cas attendre que les personnes vulnérables qui le souhaitent soient vaccinées avant tout assouplissement supplémentaire. Ce devrait donc être le cas à fin mai. Dans la deuxième phase, quand l'ensemble de la population aura progressivement accès à la vaccination, on pourra lever l'obligation du télétravail. Les grandes manifestations sportives et culturelles seraient à nouveau accessibles avec un passeport Covid. Et puis, à fin août, débuterait la phase de normalisation, où les dernières restrictions seraient progressivement levées.
On va se quitter en France cette semaine avec cette question qui dépasse un peu le cadre de la pandémie de coronavirus. Face aux crises sanitaires au pluriel, à quoi ressemblera notre future vie quotidienne au bureau comme dans les espaces publics? Eh bien, les chercheurs français sont en train d'y travailler. Le projet s'appelle Be Life Line. Il s'agira par exemple de se faire désinfecter automatiquement avant d'entrer dans certains bâtiments. Explication avec ce reportage de Kathleen Combe.
Portez votre masque. Entrez, s'il vous plaît.
Voilà ce que pourraient bien entendre prochainement les salariés des entreprises en arrivant au travail. Il leur suffira ensuite d'entrer dans le sas vitré, d'attendre quelques secondes et de ressortir. Tony Bordello, responsable du développement de Be Lifeline.
Donc là, on pénètre à l'intérieur du sas de désinfection. On a une désinfection par ionisation qui s'effectue sur une dizaine de secondes. Toutes les personnes et tous les objets qui ont pénétré à l'intérieur de la cabine sont du coup désinfectés. La réduction de la charge virale est à 99,99%.
Ce procédé de ionisation change la charge d'un atome. Les molécules, ici négatives, capturent les polluants pour les plaquer au sol. Quand on sort, on ne porte donc plus de charge virale sur nos vêtements. Et ce sas, appelé Isola, n'est pas la seule technologie développée. Un tunnel gonflable utilise la brumisation sèche. Des dalles lumineuses désinfectent aussi par rayons UVC. Il y en a donc pour tous les secteurs, festivals, écoles, entreprises. Angelo Gopé, directeur général de Live Nation dans l'événementiel.
C'est intéressant, on va les contacter pour qu'ils viennent nous voir et essayer de modéliser effectivement leurs connaissances, leurs compétences par rapport à nous, nos spécificités. Ils ont des idées, nous on a la connaissance du terrain et des salles, à nous d'essayer de les accompagner pour qu'ils produisent au mieux ce qui correspond à nos métiers.
Comptez 2500 euros pour un tunnel gonflable et entre 8000 et 30 000 euros pour un sas de désinfection par ionisation.
Un reportage de Kathleen Combe pour France Inter. Merci à tous les partenaires. C'était l'essentiel de l'actualité des médias francophones publics, comme toutes les semaines, avec RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. Belle fin de semaine et à la semaine prochaine.